Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais. Ok. Je suis vraiment heureux d'être avec vous aujourd'hui. Comme l'a dit tout à l'heure Francis, je m'appelle Brandon. Je viens de l'église Ouvrage, qui est l'église également de Nathan Kimby. Donc je suis dans cette église ancien en formation. Et Nathan nous a sollicité pour savoir si quelqu'un pourrait venir aujourd'hui partager la parole. Et donc c'est avec un grand plaisir que je le fais aujourd'hui. C'est vraiment un privilège pour moi de partager la parole de Dieu. Et j'espère que le Seigneur aujourd'hui, par cette parole, va nous faire du bien. J'espère qu'il va nous bénir par le texte que nous allons étudier ensemble. Je sais que vous êtes actuellement dans une série sur Exode, il me semble. Aujourd'hui, je vais faire une petite coupure parce que le texte que nous allons voir est dans le livre de Samuel, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 2. Et donc, on peut le prendre ensemble si vous avez vos Bibles ou de quoi suivre. Mais en tout cas, je vais le lire. Donc, 1 Samuel au chapitre 2, du verset 1 au verset 10. Donc, 1 Samuel, chapitre 2, du verset 1 au verset 10. Anne pria et dit « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre, il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre, il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son oint. Je vous invite à la prière avant qu'on commence. Seigneur, notre Dieu, notre Père, comme on l'a prié, comme on l'a chanté, tu es un Dieu qui sait tout. Ce matin, nous venons devant toi et tu connais nos cœurs, tu connais nos situations, nos circonstances. Mais Seigneur, merci parce que tu nous accordes déjà la grâce de venir librement devant toi, de pouvoir être à tes pieds, de pouvoir écouter ce que tu as à nous dire ce matin. Et nous te prions, Seigneur, que nos cœurs soient disposés, que au travers de ce texte, de ce cantique d'Anne, tu puisses parler à nos cœurs. Et Seigneur, aide-nous à ressortir de ce culte avec peut-être une idée plus précise sur qui tu es, ou peut-être avec un désir plus grand de te servir, de nous sanctifier, de te ressembler, Seigneur. Mais en tout cas, fais-le par ton Saint-Esprit. Seigneur, sans toi, on ne peut rien faire. Et on reconnaît humblement que nous avons besoin de toi, de ta grâce et de la puissance de ton Saint-Esprit pour être transformés. Alors Seigneur, fais-le par ta grâce et pour ta gloire, dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alors comment avez-vous réagi la dernière fois que le Seigneur a exaucé un sujet de prière qui était important à vos yeux? Comment avez-vous réagi? Peut-être que vous avez remercié Dieu, certainement, peut-être que vous l'avez loué, peut-être que vous avez même rendu un témoignage public de ce que le Seigneur a fait. Mais dans tous les cas, quand le Seigneur exauce nos prières, quand on a un sujet qui est pour nous un fardeau, eh bien, ça ne nous laisse pas indifférents. Notre texte, justement, eh bien, il décrit la prière qu'Anne a exprimée à Dieu à la suite de la réponse à ses supplications. Donc pour vous donner un peu de contexte sur ce passage, eh bien, Anne était stérile pendant plusieurs années. Elle était moquée, méprisée par sa rivale, entre guillemets, Pénina. Et peu de temps après, Dieu lui a accordé la grâce de donner naissance à Samuel. On peut donc facilement imaginer la joie qu'elle a pu ressentir quand elle a eu Samuel. Et c'est d'ailleurs ce qui est exprimé dans les premiers versets de notre texte. Mais avant d'aller plus loin, il y a une chose qui doit nous interpeller dans le contexte de notre passage. Eh bien, c'est que cette prière, qu'on appelle le cantique d'Anne, eh bien, elle apparaît au moment où Anne s'apprête à laisser Samuel au sacrificateur Élie. C'est-à-dire que le moment qu'on pourrait imaginer comme étant le plus triste pour cette mère, le plus difficile, eh bien, c'est le moment où on retrouve cette prière. Et ça, ce n'est pas anodin, je crois que ça nous révèle au moins deux choses. La première, c'est que Anne était pleinement confiante en Dieu au moment de lui laisser Samuel, de lui consacrer Samuel. Et la deuxième chose, eh bien, c'est que la joie d'Anne était davantage en l'Éternel qu'en Samuel. Elle n'était pas attristée au moment de le laisser parce qu'elle se réjouissait davantage dans le donateur que dans le don. Et c'est pourquoi le thème de son cantique, le thème central, ce n'est pas Samuel. Ce n'est pas le fils qu'elle a obtenu, mais c'est plutôt le Dieu qui l'a donné. Et on peut voir que dans ce texte, eh bien, Anne exalte le Dieu qui élève les faibles et qui abaisse les puissants, le Dieu souverain qui intervient dans la vie des hommes. Et c'est pourquoi j'ai intitulé ce message « La souveraineté du Dieu des renversements ». Et le premier point que nous allons voir notamment au travers de ce message, eh bien, c'est la souveraineté de Dieu, tout simplement. Donc premier point, nous allons voir la souveraineté de Dieu. Donc Anne, dans sa prière, eh bien, elle expose de manière claire comment Dieu agit souverainement dans la vie des hommes. On peut lire déjà au verset 6 et 7, on peut lire « L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. » Et ces versets ici nous montrent finalement que tout ce qui arrive à l'homme, tout ce qui nous arrive, n'est pas en dehors de l'action de Dieu. Ces versets s'opposent radicalement à une croyance qu'on appelle le déisme. Donc cette croyance, en fait, c'est une croyance selon laquelle Dieu serait comme un grand horloger qui a créé le monde et puis ensuite qui le laisse fonctionner sans intervenir. Mais cette vision n'est évidemment pas la vision du Dieu de la Bible. Et ici, on voit justement que eh bien, Dieu est souverain sur toute chose. En effet, si l'Éternel fait mourir et vivre, alors il est souverain sur nos vies. Si l'Éternel appauvrit et enrichit, alors il est souverain sur nos richesses, sur nos possessions matérielles. Et s'il abaisse et élève, alors il est même souverain sur notre position et sur notre statut social. Autrement dit, si je dois mourir demain, eh bien je ne serai mort ni en avance, ni en retard. Parce que Dieu est souverain sur ma vie et il est souverain sur ta vie. Et la Bible dit même que tous nos jours sont écrits dans son livre avant même que nous soyons formés. Dans le psaume 139. Alors quand on parle de souveraineté, j'emploie beaucoup ce terme, mais en réalité c'est assez simple. Ce que ce terme signifie, c'est simplement que Dieu a l'autorité au-dessus de toute autorité, de sorte que tout ce qu'il veut, il le fait. Rien ne peut empêcher ses desseins de s'accomplir. Le psaume 135 l'exprime un petit peu dans ce même sens. Au verset 5 et 6, on peut lire « Je sais que l'Éternel est grand » et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. » Voilà à quoi ressemble la souveraineté de Dieu. C'est qu'il est au-dessus de toute chose. Mais face à une vérité aussi lourde et pesante, on pourrait se dire, mais à quoi bon faire quoi que ce soit, finalement ? À quoi bon faire quoi que ce soit si Dieu est souverain sur toute chose ? Mais c'est là justement que eh bien, réside ce fameux mystère entre la souveraineté de Dieu d'une part et la responsabilité de l'homme. Dieu demeure souverain, mais sans pour autant que ça annule l'importance et la responsabilité de nos actions. Dieu demeure souverain, mais sans pour autant qu'on puisse lui attribuer notre péché et le mal de nos actions. De nombreux versets illustrent dans la Bible cette tension entre ces deux réalités, mais sans pour autant que ce soit contradictoire, évidemment. Prenons par exemple la crucifixion de Jésus. Ce verset, c'est un de ceux qui m'a toujours interpellé par rapport à cette tension. On peut lire ça dans Actes 2, au verset 23. Eh bien, on parle de Jésus ici. Et la Bible dit « Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. » Alors, est-ce que Dieu a livré Jésus pour qu'il soit crucifié selon son plan? Oui. Et est-ce que les hommes sont responsables pour avoir crucifié le Fils de Dieu? Oui, également. Et c'est un mystère, mais ce n'est pas une contradiction. Et il y a plusieurs autres versets qui illustrent cette tension, et il y en a un que j'aime bien, je vais juste en citer un autre. Eh bien, c'est 1 Corinthiens 15, le verset 10. J'aime comment Paul parle ici. Il dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Alors, est-ce que c'est Paul qui a travaillé ou est-ce que c'est la grâce de Dieu en lui? Eh bien, c'est les deux en réalité. Alors aujourd'hui, je sais que l'action souveraine de Dieu peut être une réalité avec laquelle on peut avoir du mal. En théorie, tout le monde adhère à cette doctrine. Je connais même d'ailleurs aucun chrétien qui dirait que non, je ne crois pas en la souveraineté de Dieu. Mais dans la pratique, on peut parfois avoir du mal à appréhender cette réalité. D'une part, à cause aussi de la pensée de la société. Rien que dans le monde, on aime l'idée d'être le maître de nos vies. Regardez ce que dit cette citation du Dalai Lama. Il dit « Chacun est maître de son destin. C'est à nous de créer les causes du bonheur. » Et voilà la pensée qu'on retrouve en général dans la société. Nous sommes les responsables de notre bonheur. Nous sommes les maîtres de notre destin. Mais permettez-moi de nous rappeler que l'Éternel, notre Dieu, est le seul véritable maître sur nos vies. Il est le seul qui connaît toutes choses. Je ne peux même pas vous dire qu'est-ce qui peut se passer dans 5 minutes, même 1 minute finalement. Dieu seul sait tout. Mais cette vérité n'enlève pas la liberté de nos choix, et c'est là que je reviens sur ce que je disais par rapport à ce mystère, dans le sens où Dieu agit de manière souveraine, mais nous aussi, nous agissons librement. Dieu a souverainement orchestré toute chose, il a souverainement orchestré que je prêche aujourd'hui, mais il n'a pas seulement orchestré que je prêche avec vous aujourd'hui, mais il a orchestré que je prêche librement. Et c'est là que réside ce mystère. Un autre exemple où des situations où on peut avoir du mal avec la souveraineté de Dieu, eh bien c'est quand nous faisons face au malheur, quand nous faisons face à la maladie, quand nous faisons face à la perte d'un être cher. J'ai dans mon entourage un couple d'amis qui ont récemment perdu leur enfant, et c'est douloureux, c'est terrible. Et dans ces moments-là, c'est difficile de se dire que Dieu est souverain. Ça fait mal de se dire que Dieu est en contrôle de toute chose quand on fait face au malheur. Mais même si on ne peut pas tout expliquer, même si c'est parfois dur à appréhender, eh bien, nous devrions être confiants dans cette vérité que Dieu est au contrôle de toute chose. Pour Anne, dans notre texte, eh bien, loin d'être une source de trouble, la souveraineté de Dieu est vraiment l'objet de sa louange, l'objet de son exaltation. Et vous savez ce qui lui permet d'être confiante, dans cette souveraineté? Eh bien, c'est simple. C'est parce qu'elle sait qui est Dieu. Elle connaît son Dieu. Au verset 2, elle nous dit la chose suivante. Elle nous dit « Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. » Alors face à une telle vérité, comment pourrait-elle être dérangée que l'Éternel soit celui qui fasse mourir et vivre, qu'il soit celui qui appauvrit et enrichit, qu'il soit celui qui abaisse et qui élève, quand elle sait qu'il est un Dieu saint, un Dieu incomparable et le rocher auprès duquel elle peut trouver un appui. Savoir qui est Dieu nous aidera à embrasser sa souveraineté. Savoir qui est Dieu devrait nous rassurer quant à son action souveraine dans nos vies, parce que notre vie n'est pas entre les mains d'un homme. Notre vie n'est pas entre les mains d'un mauvais gérant, mais elle est entre les mains d'un Dieu qui est bon, un Dieu qui est saint et un rocher auprès duquel nous pouvons nous réfugier. Et si Dieu est justement cet être le plus sage et le plus bon, le plus bienveillant qui existe, eh bien sa souveraineté est la meilleure chose qui existe. C'est la meilleure chose qui existe pour nous. Apprécier sa souveraineté, c'est aussi apprendre finalement à faire preuve d'humilité. Anne, dans son cantique, eh bien, elle fait la recommandation suivante au verset 3. Elle dit « Ne parlez plus avec tant de hauteur que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout et par lui sont pesées toutes les actions. » Dieu est celui qui sait tout. On l'a chanté tout à l'heure. C'est lui qui connaît toutes choses. Il connaît le fond de notre cœur et bien plus encore. Dieu est souverain, mais pas nous. Dieu connaît toutes choses, mais pas nous. Alors, c'est aussi un encouragement, une exhortation pour nous à ne pas vouloir tout contrôler, à ne pas vouloir tout maîtriser, chaque détail de notre vie ou bien de la vie des autres. Mais Dieu nous appelle à nous reposer en lui parce qu'il sait toutes choses et il connaît toutes choses. Nous devrions faire preuve d'humilité parce que nous ne savons pas quels sont les desseins qui sont cachés en Dieu finalement. Notre situation d'aujourd'hui peut être totalement différente demain. Aujourd'hui, peut-être que nous sommes dans certaines circonstances, mais que réserve le lendemain ? Dieu seul le sait. Anne était stérile, elle était méprisée. Chaque année, elle pleurait sa stérilité. Mais finalement, elle a donné naissance à l'homme qui allait avoir une importance capitale au sein du peuple d'Israël, Samuel. Aujourd'hui, peut-être que tu es dans une situation compliquée, mais prie parce que tu ne sais pas ce que le Seigneur a prévu. Ou à l'inverse, peut-être que tu es dans une position favorable et dans ce cas-là, rends gloire à Dieu. Ne t'enfle pas d'orgueil, parce que le lendemain pourrait apporter son lot de changements et de renversements dans ta vie. Oui, les rois des autres nations, eh bien c'est comme ça qu'ils se comportaient avec arrogance, par leur puissance, par leurs armées, par leur force. Mais Dieu les a renversés. Dieu les a renversés parce qu'il est ce Dieu qui est souverain, il est ce Dieu qui renverse les situations, et qui intervient dans la vie des hommes et des femmes. Et c'est justement ce que nous allons voir dans un deuxième point. Nous avons vu que Dieu est souverain, que Anne reconnaît clairement sa souveraineté, et nous allons voir que Dieu est aussi un Dieu de renversement. Dieu est un Dieu de renversement. Je pense que la plupart d'entre vous ici, je pense que vous avez déjà regardé peut-être des films ou des séries dans lesquelles il y a un personnage qui est assez faible au départ, parfois pauvre, un personnage en tout cas sur qui personne n'aurait misé. Et puis finalement, au fur et à mesure de l'histoire, eh bien, il se retrouve victorieux face à un grand méchant, ou bien il finit par être élevé et reconnu par les siens. Je pense par exemple à un personnage qui est très cher à mon cœur, c'est celui-ci. On le voit au départ faible, rejeté de tous, donc pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, c'est Naruto. Et au fur et à mesure, il commence à devenir fort, il commence à être apprécié au point même de devenir le chef de son village. J'espère que je ne spoil personne ici. Et si on est un peu plus proche de nous dans le récit biblique, on pourrait penser à David et Goliath, n'est-ce pas ? David, jeune berger, qui n'était même pas reconnu pour ses forces, pour ses valeurs, se retrouve face au grand Goliath et contre toute attente, il parvient à le vaincre. En fait, ce thème des faibles qui sont élevés, des forts qui sont abaissés, bien c'est un thème qu'on retrouve tout au long du livre de Samuel. C'est la série dans laquelle on est dans mon église. On a par exemple Anne, comme je l'ai dit ici, David et Goliath, ou même encore David et Saül. Et en général, eh bien, dans tous ces scénarios, dans toutes ces situations, notre empathie est toujours tournée vers le personnage le plus faible, n'est-ce pas ? En général, notre empathie, notre compassion, elle est vers celui qui part de loin et qui voit sa situation être renversée. En général, c'est ce qui arrive. Mais pourtant, si on est vraiment honnête, que ce soit dans nos activités, dans notre travail, dans notre vie quotidienne, qui parmi nous se satisfait dans la faiblesse ? Qui parmi nous se satisfait d'être le plus petit, le moins fort ? Un jour, j'ai entendu un extrait d'un message d'un prédicateur que je ne recommanderais pas, mais peu importe, qui disait que les épreuves de nos vies faisaient de nous des Davids. En gros, les épreuves sont les Goliaths de nos vies, et donc ça fait de nous des Davids, parce qu'on va vaincre ces épreuves, parce qu'on est des Davids. Mais la réalité, c'est que est-ce qu'on est vraiment des Davids ? Est-ce qu'on n'est pas souvent plus des Goliaths que des Davids ? Peut-être pas en apparence, on n'est pas fort comme lui, on ne fait pas 3 mètres, mais dans le cœur. Est-ce qu'on n'est pas plutôt à chercher en général à paraître fort, indépendant, à rechercher peut-être l'élévation, la reconnaissance de tous ? Est-ce qu'on n'est pas parfois plus comme Goliath, étant entaché par le péché dans nos cœurs et par l'orgueil qui monte parfois ? Si on est honnête, est-ce qu'en apparence nous ne sommes pas plus comme Goliath que comme David ? Est-ce que nous ne sommes pas plus comme celui qui veut être fort plutôt que celui qui est faible, rejeté ? En tout cas, dans notre texte, eh bien, on peut clairement voir comment ceux qui sont faibles se retrouvent élevés. On voit clairement comment ceux qui sont puissants sont abaissés. C'est ce qu'on peut lire au verset 4 et 5, où la Bible nous dit « L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. » Pardon. Le verset 8 exprime la même idée, il n'est pas affiché, mais je vais simplement vous le lire. Il dit « De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. » Alors oui, Dieu est effectivement celui qui, de manière souveraine, élève les faibles et abaisse les puissants. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie pour nous ? Qu'est-ce que ça signifie pour nous ? Est-ce que ça signifie que nous ne devrions jamais être élevés par peur que Dieu nous abaisse ? Ou est-ce que ça voudrait dire que être pauvre est une vertu ? Bien non, ces paroles d'Anne n'ont pas pour but de nous dire « Soyez faible pour que Dieu vous élève » ou « Soyez pauvre pour que Dieu vous enrichisse ». Mais les faibles dont il est question ici, les pauvres dont il est question dans ce texte, eh bien c'est ceux qui se confient en Dieu. C'est ceux qui ne trouvent pas, leur force dans leur possession, dans leur statut social, dans leur capacité, dans leur richesse. Voilà ceux dont il est question dans ce texte, et c'est un encouragement et un appel à se confier en Dieu et à ne pas se confier dans ces choses. Et à l'inverse, eh bien les forts, les puissants, c'est ceux qui se confient dans leur propre force. Les rois des nations, les Philistins, les Goliaths, les Saül, ce sont ceux qui n'ont pas besoin de Dieu finalement. Alors ce texte ne t'appelle pas à chercher la faiblesse de manière générale, mais plutôt la faiblesse qui te pousse à dépendre de Dieu. La faiblesse qui te pousse à ne pas t'appuyer sur tes propres forces, sur tes propres capacités, sur ta propre sagesse. Parce que c'est comme ça que Dieu élève ceux qui sont faibles, c'est ceux qui s'appuient sur lui. Anne faisait partie de cela, elle était stérile, moquée, méprisée, mais autant convenable. Dieu lui a fait grâce, Dieu l'a élevée, et comme elle le dit au verset 1, sa force a été relevée par l'Éternel. Alors comme je l'ai dit, si on est honnête, parfois on est bien plus comme les forts, entre guillemets, ceux qui se confient en eux-mêmes. Parfois on est comme ça, le cœur rempli d'orgueil, parfois on ne se confie plus en Dieu, on ne prie plus. Parfois on peut servir sans considérer le besoin de passer du temps dans la prière. Parfois on peut prendre des décisions importantes sans prendre le temps de consulter Dieu, de demander sa sagesse et de lui demander sa direction. Mais le Seigneur est celui qui brise justement ceux qui se confient en eux-mêmes. Et nous sommes tous sous cette menace, sous la menace du moins de nous appuyer sur notre propre force, que ce soit pour les choses spirituelles comme pour les choses naturelles, mais nous ne sommes pas à l'abri de vouloir nous reposer sur notre propre capacité. Alors ne nous laissons pas entraîner par la mentalité justement de la société, hein, qui nous pousse justement à ne pas montrer nos faiblesses, qui nous pousse à nous montrer forts, ne jamais montrer nos vulnérabilités, ne jamais montrer qu'on peut être défaillant. N'ayons pas peur de nous considérer comme faibles parfois. N'ayons pas peur de reconnaître parfois que nous sommes défaillants, que nous sommes faillibles. Paul, en 2 Corinthiens 12, 9, eh bien, il nous partage la chose que le Seigneur lui a dite. Le Seigneur lui a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors, quelle a été la réponse de Paul à ça? Est-ce que Paul a dit « Non, 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 je suis Paul quand même, je ne peux pas me montrer faible. Il ne faut pas qu'on puisse voir que l'apôtre peut être faible. » Non. Paul, il a répondu « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Voilà, Paul avait conscience que dans la faiblesse, Christ prend le relais. Dans la faiblesse, sa puissance prend le relais. Alors ne crains pas d'être le plus petit, le plus faible, le plus imparfait, car ce sera à ce moment que tu dépendras pleinement de la grâce et de la puissance de Christ. Alors Dieu est l'auteur de ces renversements. Faisons-lui confiance pour qu'il nous fortifie quand nous sommes faibles et pour qu'il nous élève quand nous sommes abaissés. Et même si ça n'arrive pas d'un point de vue naturel, c'est-à-dire dans notre quotidien ou autre, même si notre situation ne change pas, eh bien on peut s'accrocher à la déclaration d'Anne dans notre texte qui est un rappel important pour nous. Elle nous dit au verset 9 et 10, elle dit « Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront, du haut des cieux il lancera sur eux son tonnerre, l'Éternel jugera les extrémités de la terre. » Voilà ce que nous dit Anne. Je sais que ce n'est pas toujours agréable à entendre, mais il y a une chose dont nous devons nous rappeler, c'est le jugement de Dieu. Dieu ne laissera pas les méchants impunis. Dieu ne laissera pas ceux qui s'opposent à lui impunis. Autrement dit, les puissants, les orgueilleux ne triompheront pas. Ils ne triompheront point par la force. Alors même si en apparence, eh bien, les hommes de ce monde triomphent parfois, n'est-ce pas ? En apparence, on voit beaucoup d'injustices, beaucoup de royaumes qui semblent soumettre leur domination, et parfois même ces rois semblent être impunis finalement. Mais ils n'échapperont pas au jugement de Dieu. Alors n'envions pas ceux qui possèdent beaucoup de choses, n'envions pas forcément les haut placés, les puissants, qui en apparence sont tout ce qu'un homme ou une femme pourrait désirer. Mais la réalité, c'est qu'ils amassent un trésor de colère, pour le jour du jugement. Et c'est ce que nous dit ce texte, c'est que Dieu ne laissera pas les méchants impunis. Mais par contre, à nous qui lui appartenons, eh bien, même si notre situation est parfois compliquée, même si nous sommes dans l'épreuve, dans les difficultés, même si nous sommes peut-être parfois moqués à cause de notre foi, eh bien, la Bible nous dit que le Seigneur nous gardera. La Bible dit qu'il gardera les pas de ses bien-aimés. Alors, est-ce que ça signifie que aucun malheur ne nous arrivera? Alors non, je suis désolé de devoir vous le dire, mais ce n'est pas le cas. Est-ce que ça signifie que la mort même ne nous atteindra pas? Non plus. Quand on regarde aux apôtres et aux martyrs qui sont morts à cause de leur foi. Mais ça signifie que Dieu nous gardera dans la foi en lui. Si Dieu est souverain, eh bien toutes nos souffrances, nos épreuves, nos difficultés ne seront pas pour notre perdition, mais pour notre bien, selon qu'il est écrit que Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime, de ceux qui sont appelés conformément à son dessein. Alors je sais que dans la pratique, c'est une réalité qui est parfois difficile à avaler, qui ne s'est jamais demandé « Seigneur, pourquoi tu n'agis pas au milieu de mon épreuve ? Seigneur, pourquoi tu n'agis pas dans ma situation ? Et pourquoi tu permets une telle épreuve dans ma vie ?» Qui ne s'est jamais posé ces questions ? Mais savoir que Dieu nous gardera quoi qu'il en coûte, eh bien, c'est quelque chose qui doit nous offrir de l'espoir, c'est quelque chose qui doit nous rappeler que nos souffrances ne sont pas vaines. Tes souffrances ne sont pas gratuites. Si Dieu les permet dans ta vie, c'est pour un but. Et parfois, tu ne sauras pas quel est ce but. Mais Dieu le sait, parce qu'il est celui qui sait toutes choses et qui agit souverainement conformément à son plan. Mais par contre, la chose que tu dois savoir, c'est qu'il te gardera. Quoi qu'il arrive, il te gardera. Ton salut est sécurisé en Dieu et par Dieu lui-même. Et de nombreux versets nous donnent cette assurance, mais je n'en citerai que quelques-uns. Jean 10, du verset 27 à 28. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » De Thessaloniciens 3:3. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. 1 Pierre 1, 5. Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Et Philippiens 1, 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, soyez confiants et confiantes dans l'action souveraine de Dieu sur votre vie. Si tu as placé ta foi en Christ, si tu as placé ta foi pour ton salut en lui, eh bien, tu fais partie de ses bien-aimés. Tu fais partie de ses bien-aimés et il te gardera. Et c'est la confiance qu'on peut voir que Anne avait dans le Seigneur. Et c'est pourquoi elle pouvait se réjouir en lui, finalement. Elle était confiante parce qu'elle sait que Dieu est au contrôle de toutes choses et qu'un jour, eh bien, il mettrait lui-même les choses en ordre en établissant son roi. Et c'est ce qui est exprimé à la fin du verset 10, la deuxième partie du verset. Elle nous dit « L'Éternel donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son oint. » Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son oint. Oui, on l'a chanté, au-delà de tous, l'Éternel règnera. Il règnera au-delà des David, au-delà des Salomon, au-delà des rois terrestres. L'Éternel établit son roi, son Messie. Jésus-Christ est ce roi. Il est ce roi dont nous avons besoin. Il est ce roi qui est au cœur même du plus grand renversement de l'histoire de l'humanité, n'est-ce pas ? Comment le Dieu plus grand que la terre, l'univers, plus grand que tout ce qui existe, a-t-il pu prendre une forme aussi petite qu'un fœtus dans le ventre de sa mère, qu'un bébé qui a grandi, qu'un enfant et qu'un homme, afin de mourir à la croix pour nos péchés. Voilà quel est le plus grand renversement de l'histoire de l'humanité. Dieu le Fils qui descend parmi nous, qui se fait homme, avec toutes les faiblesses qu'implique notre nature à l'exception du péché, abaissé, humilié, frappé à la croix. Mais Dieu a relevé sa force, n'est-ce pas ? Dieu l'a relevé d'entre les morts et il l'a fait pour que toi et moi puissions être sauvés. Il l'a fait pour que toi et moi puissions nous réjouir en lui, dans son salut. Il l'a fait pour que les faibles qui ont besoin de Dieu, qui se confient en lui, puissent être forts. Il l'a fait afin que les pauvres puissent être enrichis en lui. Prenant notre péché sur lui et en nous donnant sa justice. Voilà le renversement que personne ne pouvait soupçonner et que Anne ici mentionne de manière prophétique en disant que Dieu établira son roi et il relèvera la force de son nom. Alors si Dieu a payé un tel prix pour toi et pour moi, ce n'est pas pour nous abandonner à notre sort sur la terre. S'il a payé un aussi grand prix, ce n'est pas pour te délaisser dans ta marche avec lui. Il gardera les pas de ses bien-aimés et il nous gardera et il reviendra nous chercher. Alors je vous encourage à persévérer, à garder cette confiance ferme dans le Seigneur. Si ce Dieu-là, ce Dieu souverain qui nous tient dans le creux de sa main, alors soyons assurés qu'il nous gardera jusqu'à son retour. Soyons assurés que ni les épreuves, ni la pauvreté, ni la faiblesse, ni les souffrances, ni la vie, ni la mort, rien de toutes ces choses ne pourront nous séparer de son amour. Alors juste pour terminer, eh bien, je voudrais juste vous donner ces dernières exhortations, comme on l'a vu, de nous confier dans la souveraineté de Dieu. On l'a vu, sois humble, parce que tu ne peux pas tout maîtriser. Et je me parle à moi-même. Je suis le premier à me mettre dans tous mes états quand les choses ne sont pas faites comme il faut à la maison et que je sais que je vais peut-être être en retard pour le culte aujourd'hui. Mais parfois, on ne peut pas tout maîtriser. Alors on doit faire preuve d'humilité, faire preuve de confiance dans le Seigneur, faire preuve de confiance dans ce qui viendra le lendemain. Parce que Dieu seul sait tout et il nous appelle à être humbles, à ne pas parler avec arrogance, à ne pas parler comme si tout était entre nos mains. Parce que tout est entre les siennes, en réalité. La deuxième chose, c'est reconnais tes faiblesses. Reconnais tes faiblesses, accepte parfois d'avoir des défauts, des défaillances. Et même si la société nous pousse à faire le contraire, nous pousse à nous montrer forts, nous pousse à nous montrer infaillibles, eh bien ce n'est pas ce à quoi la Bible nous enseigne. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne, ce n'est pas ce à quoi elle nous appelle au contraire, à nous glorifier dans les faiblesses qui nous poussent à nous appuyer sur Christ. Elle nous pousse à glorifier les faiblesses qui nous poussent à nous appuyer sur Christ. Alors, si tu es vulnérable parfois et si tu as besoin du soutien des frères et sœurs, c'est une vertu. À l'inverse de ce que le monde pourrait nous faire croire, c'est une vertu. Et enfin, eh bien, crois que Dieu te gardera, malgré les épreuves et les difficultés. Dieu te gardera jusqu'à son retour. Anne l'a dit très bien, elle le dit, il gardera les pas de ses bien-aimés. Et tu es son bien-aimé, sa bien-aimée. Dès lors que ta foi est placée en lui, dès lors que tu crois en lui, tu es son bien-aimé, Dieu te gardera. Et si aujourd'hui, alors que je m'adresse à vous, eh bien, si tu ne crois pas dans le Seigneur Jésus, eh bien, je t'encourage à méditer sur ces mots, à méditer sur ce que j'ai dit. Le Seigneur nous appelle à venir à lui. Il nous attire au travers de moyens ordinaires comme la prédication, comme les temps de communion que nous avons ensemble. Donc si aujourd'hui tu doutes, eh bien, je t'invite à méditer et à demander au Seigneur de te parler de manière profonde et intime et personnelle pour que tu puisses faire l'expérience de qui il est. Je vous invite à la prière. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous reconnaissons que tu es Dieu, que tu es un grand Dieu, que tu t'élèves au-dessus de toute chose, que tu es au-dessus de la terre, des mers, des cieux. Et bien évidemment, Seigneur, tu es au-dessus de nous. Alors je te prie que, Seigneur, ce texte puisse nous rappeler notre faiblesse naturelle à cause du péché, mais qu'il puisse aussi nous rappeler, Seigneur, que tu ne nous appelles pas à être indépendants, tu ne nous appelles pas à nous confier en nous-mêmes, mais tu nous appelles à nous confier en toi, Seigneur. Tu es souverain, c'est toi qui abaisse ceux qui sont puissants, mais c'est aussi toi qui élève ceux qui sont faibles. Seigneur, nous prions que tu nous viennes en aide, nous reconnaissons que nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin que tu nous rappelles les merveilles de ton évangile et la grandeur de qui tu es, Seigneur. Seigneur, parle à nos cœurs et aide-nous à être confiants en toi que par ta puissance, tu nous garderas par la foi pour le salut. Parce que Seigneur, tu es celui qui gardera les pas de ses bien-aimés. Alors malgré les épreuves, malgré les difficultés, fortifie-nous, Seigneur. Encourage-nous, transforme-nous par ton Saint-Esprit et que nos yeux soient fixés sur toi et qu'à la fin, on puisse simplement te donner gloire. Seigneur, je te prie toutes ces choses dans le nom de ton Fils. Amen.